France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1910, Edmond Locard, un médecin légiste avant-gardiste, créait à Lyon un laboratoire de police scientifique d'un genre nouveau. Entre méthodes expérimentales, quête de la moindre trace et rigueur scientifique, les enquêtes policières et les jugements de délit ont trouvé dans ce laboratoire un nouvel outil de poids pour traquer les criminels et les récidivistes. Science Chrono devient aujourd'hui Science Sherlock et se demande si c'était si élémentaire que ça, mon cher Locard, de développer la police scientifique. Et pour parler de cette histoire qui mêle science et enquête criminelle, nous sommes en ligne avec Amos Frappa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur rattaché au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, ainsi qu'à l'École nationale supérieure de police. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette figure avant-gardiste qu'était Edmond Locard, qui a eu une large influence sur la police scientifique actuelle. Alors, avant de nous plonger dans cette histoire des sciences au parfum de série noire, je vous donne un aperçu de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, on recevra un enquêteur des temps modernes, l'historien et mythologue Julien Duhy, qui part à la recherche des origines d'un mythe mondialement répandu, le mythe du dragon. On verra comment, grâce à sa méthode empruntée à la biologie de l'évolution, confrontée entre autres aux données archéologiques, il parvient à dessiner les contours de l'origine de ce mythe aux multiples facettes, mais aussi à retrouver l'itinéraire de diffusion de ce mythe dans l'espace et dans le temps. Mais avant de parler de dragons, revenons à l'époque des Brigades du Tigre et à cette histoire de la police scientifique à laquelle un certain Edmond Locard a donné ses lettres de noblesse. Alors, Amos Frappa, Edmond Locard est né en 1877 à Saint-Chamond, dans la Loire. Quel portrait peut-on faire de sa famille? Dans quel cadre a grandi le petit Edmond?
Alors, Edmond Locard est un enfant de la petite bourgeoisie lyonnaise, avec une ascendance très très honorable. C'est-à-dire que, comme tous les grands fondateurs de la police scientifique, tel Alphonse Bertillon à Paris, on remarque que dans sa famille, il y a moult scientifiques qui ont laissé une trace notable dans l'histoire de la France du 19e siècle. Par exemple, il y a chez les Locard un ingénieur en chemin de fer, il y a quelqu'un qui va devenir l'un des fondateurs de la malacologie, l'étude des mollusques. Bref, tout un tas d'éléments qui laissent à penser que Edmond Locard n'est pas venu là pour rien, ou en tout cas qu'il avait un bagage qui l'a conduit naturellement vers la science. La science a été quoi? Ça a été la médecine, vers laquelle il s'est orienté, pas tellement par choix, parce qu'il était plus littéraire de cœur par sa mère, mais simplement pour suivre le désir paternel de voir l'enfant aîné, comme toutes les bonnes familles bourgeoises, aller du côté de la médecine.
Il se dirige vers la médecine légale alors qu'il déteste le sang. Pourquoi quel attrait il a pour cette approche-là?
Alors, c'est d'abord la médecine, mais vous avez raison, c'est un accident qui va l'amener fortuitement vers la médecine légale, alors même qu'il a une sainte horreur du sang, parce que il se trouve que son mentor, son maître, qui était un certain Léopold Ollier, spécialiste d'orthopédie, va mourir à la fin de ses études. Donc, on est en 1900. Et Edmond Locard doit se chercher un nouveau maître. Et c'est vers un certain Alexandre Lacassagne, médecin légiste à Lyon, qu'il va se tourner, par finalement l'entremise de son père, puisque Lacassagne et son papa fréquentent tous deux l'Académie des sciences de Lyon, et c'est comme ça que le jeune Edmond va aller vers la médecine légale, partie pour laquelle il n'a pas d'appétence, en effet, il n'aime pas le sang, mais qui va lui plaire du côté de l'enquête. C'est vraiment cet élément-là, si vous voulez, qui va être pour lui une révélation et qui va faire qu'il va développer tout ce qu'on va évoquer dans cette émission.
Edmond Locard, il disait « Depuis longtemps déjà, la médecine légale m'attirait comme la plus compréhensible des sciences médicales, la moins spécialisée, celle qui est en rapport avec le plus de sciences connexes. » Donc là, on voit le côté un petit peu touche-à-tout qui est déjà présent d'Edmond Locard, qui va avoir son importance. Edmond Locard, vous le disiez, il est fasciné aussi par la littérature, par des figures comme Sherlock Holmes. Vraiment, ce tournant du XXe siècle, il y a quelque chose, Amos Frappa, qui s'opère dans le cadre de la scientifisation, on va dire, de la police. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous décrire ce contexte-là de germes, de laboratoires de police scientifique un peu partout dans le monde?
On va dire que le point de départ, ce serait les années 1880. D'ailleurs, c'est durant cette décennie qu'apparaît l'expression de police scientifique du côté des Italiens, du côté des élèves et des enseignants qui gravitent autour d'un certain Cesare Lombroso, un professeur de criminologie, c'est-à-dire cette science nouvelle qui compte étudier les criminels et leurs motivations. Et donc, ce phénomène qui émerge en Italie, sur le plan lexicologique, désigne en fait un phénomène global, européen, de recherche de nouvelles méthodes scientifiques à appliquer dans la police. Si on prend par exemple nos voisins anglais, eh bien eux, ils vont s'intéresser aux empreintes digitales par le biais d'une découverte qui avait été faite quelques dizaines d'années plus tôt dans l'Inde coloniale britannique. Si on regarde chez nos voisins allemands, germaniques, eh bien on a un certain Hans Gross, qui est un juge d'instruction viennois, qui lui va produire un manuel dans les années 1890, dans lequel il conseille aux enquêteurs comme aux juges de chercher à appliquer des méthodes scientifiques dans les différentes recherches. Donc bref, il y a quelque chose qui se noue dans les différents services médicaux, policiers, européen, et même, on pourrait aller plus loin, quelque chose qui se joue en termes d'intérêt. On a cette idée, qui est très vieille en histoire, attention, hein, qui est qu'il y aurait eu l'émergence d'une culture indiciale à la fin du 19e siècle. Donc c'est Carlo Ginzburg, très connu en histoire, hein, qui a émis cette hypothèse en estimant que dans différents domaines, que ce soit l'histoire de l'art, que ce soit le roman ou même la police, bah, il y a plusieurs personnes qui ont eu une même idée, qui est celle de chercher l'infime, le détail, l'indice. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une sorte de cristallisation à la fin 19e, dans ce siècle du scientisme, qui, en effet, fait qu'on est face à un phénomène global qui va donner des produits tels que Edmond Locard.
Alors, vous évoquez la figure de Cesare Lombroso, qui fait paraître en 1876 un article intitulé « L'uomo delinquente », l'homme délinquant, bien sûr. En 1885, autour de Cesare Lombroso, se tient le premier congrès d'anthropologie criminelle à Rome. Ça va avoir une influence sur la criminologie française, mais ça va aussi créer des tensions théoriques entre Lombroso et la Cassagne, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire que lorsque ce premier congrès est organisé, on a déjà des dissensions qui vont apparaître entre ce qu'on qualifiera très rapidement d'école française de criminologie et même d'école lyonnaise de criminologie autour de la Cassagne contre l'école italienne de criminologie de Cesare Lombroso. Pour aller un peu vite, hein, l'école italienne qui est critiqué par les Français, est basé sur le concept d'atavisme criminel, c'est-à-dire que vous naissez criminel, alors que du côté de la Cassagne et de ses suiveurs, il y aurait cette idée que il faudrait prendre en compte surtout le milieu social et que le criminel serait le produit d'une famille, d'un espace, d'un contexte particulier qui l'aurait amené dans cette direction. Et donc, ce débat va mettre en lumière l'école lyonnaise et française, et c'est pour ça que la Cassagne va déjà mettre en place des éléments qui vont servir de préparation à ce qu'on aura avec Edmond Locard.
Edmond Locard, il apprend aussi au contact de la Cassagne à utiliser la méthode expérimentale développée par Claude Bernard, mais appliquée à l'enquête policière. Il y a plusieurs affaires finalement qui vont être concernées par ce côté scientifique à la fin du 19e siècle. On doit parler aussi, Amos Frappa, d'une autre figure de commandeur quand on parle de police scientifique, c'est celle d'Alphonse Bertillon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce qu'il pose, lui, Alphonse Bertillon, en termes de pratique en matière de police scientifique?
Donc Alphonse Bertillon, contemporain de La Cassagne, qui est un peu plus âgé que Edmond Locard, hein, qui est une sorte de qui fait partie de la seconde génération, hein, de policiers scientifiques. Lui, à Paris, au début des années 1880, il est engagé à la préfecture de police pour les archives. Et il va avoir l'idée de changer la façon d'identifier sur les fiches les malfaiteurs en introduisant la science, en introduisant la mesure osseuse. Parce que Bertillon avait fait un an de médecine ça avait été un échec, mais en tout cas, il en avait tiré l'idée que mesurer certaines parties osseuses pouvait permettre d'identifier. Et c'est ainsi qu'il va élaborer une dizaine de mesures osseuses, techniques qu'il va compléter peu après par ce qu'on appelle la photographie judiciaire face profil, hein, c'est-à-dire qu'on va poser les malfaiteurs ou ceux qui sont appréhendés sur des chaises en les prenant deux fois en photographie, pour là aussi compléter l'archive policière. Et c'est un système qui va très vite se révéler très très intéressant pour contrer la récidive, à tel point qu'en 1889, vous allez avoir un congrès de criminologie internationale à Paris qui va se ponctuer par un appel à ce que les différents services judiciaires du monde appliquent le bertillonnage. Terme d'ailleurs, qui a été créé par l'un des plus proches amis de Bertillon, à savoir Alexandre Lacassagne. Donc si vous voulez, voilà, Bertillon c'est avant Lacassagne, pardon, Bertillon c'est pendant Lacassagne, mais c'est avant Locard, et Bertillon a déjà fait parler la France sur le plan international.
Et Edmond Locard, il fera même un stage en 1908 à Paris, sous les ordres d'un Bertillon qui est déjà un peu vieillissant. Mais ce qu'il faut dire, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Bertillon place quand même la France au premier rang de la police scientifique à l'échelle internationale. Quelles sont quand même, Amos Frappa, les limites de l'approche du bertillonnage?
Alors le bertillonnage, c'est bien, mais c'est bien surtout petit 1 pour identifier les récidivistes. C'est pas une méthode qui est utile pour identifier quelqu'un qui aurait été sur une scène de crime. Deuxième limite, évidemment, pour des raisons morales, c'est que c'est une méthode qui est avant tout, surtout destinée aux hommes. Parce que on ne peut pas manipuler les femmes dans les commissariats de police ou à la préfecture pour des raisons évidentes, et c'est pour cela que ce sont eux la principale cible. Et la troisième limite, évidemment, c'est l'âge. C'est-à-dire que comme le corps arrête sa croissance à partir de 20 ans environ, eh bien tous les jeunes échappent à ce système, et évidemment les jeunes forment une armée du crime à part entière, à tel point qu'il va y avoir l'expression d'apache, hein, qui va être fondée au début du XXe siècle par un journaliste parisien pour désigner justement ces bandes de jeunes qui, en ville, mettent la pagaille et qui agressent les bons citoyens. Donc voilà pourquoi c'est qu'un système qui est très bien, mais qui a nombre de limites, qui d'ailleurs sont dès l'époque évoquées par même les policiers parisiens. Il ne faudrait pas croire que ce seraient des critiques qui seraient venues de l'étranger ou qui seraient venues de Locard, on en reparlera, mais elles sont très précoces et elles sont issues de l'intérieur même de la préfecture de police de Paris.
Et tout de même, Amos Frappa, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier temps, donc avant d'ouvrir les portes du laboratoire scientifique d'Edmond Locard, quelles sont les méthodes scientifiques qui deviennent utilisées un petit peu en routine par les policiers à partir du tournant du XXe siècle, si on doit faire un petit résumé des techniques, des méthodes qui sont nouvelles pour l'époque?
Alors, si on se cantonne au cas français, la partie scientifique, c'est le bertillonnage, c'est la photographie judiciaire, c'est la toise, c'est tout ce qu'on a évoqué et rien de plus. C'est-à-dire que en France, au tournant du siècle, l'empreinte digitale, hein, qui grosso modo vient de l'Angleterre, fait son entrée vraiment à pas feutrer, c'est-à-dire que Bertillon l'a intégrée timidement en 1894 sur les fiches parisiennes, en mettant les quatre premiers doigts de la main droite, mais il ne l'a intégrée que comme complément. Donc ce n'est pas encore quelque chose qui relève de l'habitude policière à ce moment-là.
Pourquoi ça crée des débats, pourquoi ça crée des débats justement le recours à ces empreintes digitales comme preuve?
Alors le débat, il vient du fait qu'on se rend compte en France que l'étranger a fait des choix différents. L'un des pays étrangers qui pose le plus de questions, finalement, c'est même pas l'Angleterre, parce qu'on pourrait comprendre que l'Angleterre étant source de cette création, elle la défende. Non, c'est l'Argentine. L'Argentine qui est incarnée par un certain Juan Vucetich. Quelqu'un qui a découvert Bertillon au début des années 1890, qui était un des chantres du bertillonnage, mais qui a, entre guillemets, viré sa cutie scientifique pour aller du côté de la dactyloscopie des empreintes digitales, à tel point qu'il a remplacé l'un par l'autre. Et c'est ça qui pose question, parce que le choix argentin qui est l'un des choix les plus brillants qui a été fait et des plus montrés comme modèle, a été suivi par d'autres pays. Et c'est pour ça que les autorités françaises vont s'intéresser à la question en se rapprochant notamment de ce Edmond Lecard qui, a priori, est un petit peu dans la même optique que Juan Vucevic. Mmh.
Edmond Lecard, donc on y vient, Amos Frappa, dans cet environnement un peu d'ébullition, de théorie, de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, il fait un vrai grand tour un petit peu à l'image des savants ou des intellectuels du 17e, 18e, 19e siècle. Il va un petit peu dans tous les laboratoires de police scientifique pour s'inspirer des méthodes en cours. Il va où? Qu'est-ce qu'il apprend?
Alors, l'image est tout à fait pertinente, bravo, parce qu'en effet, comme tout bourgeois, il va faire son grand tour habituel. Il va chaque été en Italie du Nord, un peu comme le faisaient les Anglais dans l'image d'Épinal au début du tourisme, et il va décider naturellement de reproduire cette pratique avant de se lancer dans son projet de laboratoire. Parce que Lecard, il a la conscience d'arriver à un moment qui n'est pas le tout démarrage. Et il voit bien que c'est en allant voir les grands centres criminalistiques européens, notamment, mais pas que, parce qu'il va aussi aller hors du sol européen, qu'il va pouvoir justement piocher des idées, éviter des erreurs, et ainsi peut-être proposer à son tour un nouveau modèle qui, lui, par contre, serait parfait et la synthèse de tout ça. En gros, le discours que je tiens, c'est de voir Lecard comme quelqu'un qui ne veut pas se mêler à l'espèce de compétition internationale qu'il y a à cette époque, mais qui se présente plutôt comme quelqu'un qui veut faire une synthèse, quelqu'un qui veut pacifier justement les différentes méthodes qui seraient en conflit dans le monde. Et c'est pour ça qu'il fait ce grand tour en allant en Italie, en allant en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Enfin, vraiment, il prend quasiment la liste de tous les grands centres les plus connus de l'époque pour s'y rendre quelques semaines, quelques jours à peine parfois, et notamment, vous l'avez bien dit, Paris, puisqu'en 1908, en pleine affaire Steinel, il se rend auprès de Bertillon pour passer son brevet de portrait parlé, hein, c'est-à-dire apprendre la méthode du bertillonnage, ce qui va très mal se passer, parce que Lecard est à l'époque déjà connu comme celui qui critique Bertillon. Donc Bertillon va lui rendre un peu la monnaie de sa pièce, hein, c'est tout naturel. Mais en tout cas, voilà, ce tour d'Europe, ce tour même en France, va lui être essentiel pour son projet.
Pour son projet, donc ce laboratoire de police scientifique créé à Lyon en 1910, à quoi ressemblait ce laboratoire? C'est une question que le journaliste André Mur posait à Edmond Lecard en personne le 1er avril 1961 pour la RTF. Écoutez la réponse d'Edmond Lecard, c'est l'archive de Science Chrono.
Ce laboratoire commençait avec deux pièces et deux préparateurs qui n'avaient aucune culture, mais qui étaient pleins de bonne volonté et d'intelligence, et à qui j'ai appris le métier. Eh bien, quand je suis parti, un grand nombre d'années après, puisque j'ai quitté le laboratoire à l'âge de 73 ans et que j'étais entré à 31 ans, eh bien, quand je suis parti, nous étions plus de 20 et il y avait un étage entier du palais qui constituait le laboratoire.
J'aimerais, docteur, vous nous disiez quel était l'accueil au début du procureur, du parquet, devant vos recherches.
Les magistrats ont été extrêmement bienveillants et j'ajoute extrêmement intelligents, car ils ont tout de suite compris le parti qu'on pouvait tirer des preuves indiciales. Ils ne se sont pas rebiffés, mais je dois dire qu'ils ont été plus longs à admettre la valeur des preuves que les criminels eux-mêmes. Et ça se comprend, car les criminels, eh bien, ça leur tombait sur le crâne. C'était une catastrophe qu'ils ont supportée avec beaucoup de courage. Mais pour les magistrats, c'était une formation intellectuelle nouvelle et c'était surtout la responsabilité, car c'est pas moi qui appliquais les peines, c'était eux, et c'est eux qui moralement étaient responsables des condamnations qu'ils infligeaient. Je me rappellerai toujours la première affaire, mais je vous en reparlerai, d'empreintes digitales qui a été jugée aux assises. Il y avait là un avocat général, M. Brion, dont le fils est avocat actuellement à Lyon et est un de mes bons amis. Eh bien, monsieur le conseiller Brion a courageusement expliqué au jury que même quand il n'y avait pas d'autres preuves que l'empreinte digitale, il fallait condamner, et ils ont condamné.
Voilà, Amos Frappa, la voix d'Edmond Locard. Alors Edmond Locard, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup parler à tout le monde, dans les médias, de sa pratique. Qu'est-ce que vous retenez de cette prise de parole de 1961, quelques années avant sa mort ?
Alors la première chose, sur le dénuement supposé du laboratoire. Alors, on pourrait prêter à Edmond Locard un désir de mythification des débuts, mais il n'en est rien. C'est-à-dire qu'en effet, même si ça a été une révolution à l'époque, ça a été une révolution silencieuse. Et les moyens accordés au laboratoire de police de Lyon ont été infimes. Mais ce qui n'est pas propre à Lyon, parce qu'en fait, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de la police scientifique en Occident, on remarque que tous les services initiaux ont été dans la même situation. Bertillon à Paris, pareil, il est sous les combles. Rice à Lausanne, même tarif. Si vous voulez, l'idée, c'est que ces pionniers ont dû mettre en œuvre des expédients pour faire face justement à ce manque de moyens accordés. Et chez Locard, l'expédient, ça a été son beau-papa, qui était président de la Chambre de commerce de Lyon, et auquel il présentait les factures des microscopes, du matériel, en disant « mais vous comprenez, ce que je vous présente, c'est de la police, c'est pas du commerce, mais peut-être qu'il y aura un jour un débouché commercial ». Donc en gros, ce point-là, il est juste. Le deuxième point qui me ferait réagir, c'est l'aspect relation police-justice. Car Locard, ce qu'il explique, c'est que c'est bien beau d'avoir une police scientifique, mais encore faut-il convaincre. Et en effet, que Locard est celui qui peut être le premier à eu cette espèce d'intérêt pour la conviction judiciaire. Sa première grande affaire à Locard, c'est l'affaire de la rue Rava en 1910. C'est-à-dire, c'est la première affaire durant laquelle il a obtenu une condamnation en France sur la simple preuve dactyloscopique. C'est un petit peu comme ce que un certain Bertillon avait fait 10 ans plus tôt avec l'affaire Schaeffer, où il y avait eu la première affaire digitale en France. Mais là, c'est la première affaire de condamnation sur une unique preuve digitale. Et Locard, il l'a fait parce qu'il a réussi à convaincre. C'est quelqu'un qui faisait des agrandissements photographiques des empreintes digitales et qui les montrait aux jurés et qui les montrait aux juges. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à la culture forensique, à savoir comment vais-je réussir à former les magistrats ou les citoyens pour qu'ils aient des notions scientifiques afin de comprendre mon discours en cour d'assises ou afin de se prémunir à l'avenir des dangers qui pourraient se présenter. Troisième information qui m'intéresse, c'est la dernière, je vous rassure, dans cet extrait, c'est justement cette espèce de capacité qu'il a eue à intégrer à ses débuts des gardes champêtres, des gardiens de la paix, donc deux policiers qui étaient vraiment des, on va dire, au bas de l'échelle hiérarchique, et à en faire des scientifiques, notamment un qui a été, selon Locard, l'un des plus grands spécialistes des empreintes digitales au monde. Car Locard avait cette ambition de démocratiser la police scientifique pour les policiers, même ceux qui étaient les moins gradés, mais aussi pour les citoyens. C'est pour cela que Locard, il est connu pour avoir été un des rédacteurs de chroniques dans la revue Grand Public Détective, la revue de Kessel. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir d'ailleurs été un partenaire régulier de cette police privée des détectives. Quelqu'un qui, en gros, a déjà fait à son époque ce que nous, en France, on a refait au début du 21e siècle avec ce qu'on appelle la police scientifique de proximité. Donc voilà pourquoi, effectivement, il est un vrai précurseur.
Alors, il est précurseur aussi dans les méthodes qu'il emploie pour résoudre des cas. Quelles sont les choses qu'il met en place finalement et qui permettent le développement de cette police scientifique et finalement la validation de ce laboratoire de police scientifique ?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, chez Locard, l'invention de différentes techniques, mais comme l'avait fait Bertillon ou d'autres, qui vont aller plus loin dans certains domaines. Par exemple, l'empreinte digitale. On pourrait se dire que quand Locard arrive, bah, tout est fait, tout est pensé, tout est écrit. Que nenni. Locard, il va aller plus loin en mettant en place ce qu'on appelle la poroscopie. C'est-à-dire, il va étudier sur les crêtes papillaires, sur les petites montagnes qui sont au niveau des empreintes digitales, il va étudier les pores, par où passe la sueur, pour dire, bah voilà, on a là quelque chose qui va nous permettre d'encore mieux identifier les empreintes digitales. Autre exemple de création locardienne, c'est en matière d'expertise d'écriture. Il va créer la graphométrie, qui consiste à apporter de la statistique à l'expertise en écriture pour voir la fréquence de telle orientation de lettres. En gros, pour réussir à produire notamment des graphiques qu'il pourra montrer aux jurés ou aux juges pour mieux les convaincre de la culpabilité ou de l'innocence de telle personne. Donc en gros, il y a ce premier aspect qui est intéressant, qui est je contribue moi-même à créer différentes méthodes dans cette nébuleuse qu'est la police scientifique. Mais le second aspect qui est plus intéressant, c'est qu'il va théoriser. C'est le premier qui, par sa prise de recul, va émettre les premiers grands principes de police scientifique, qui d'ailleurs le sont toujours aujourd'hui. L'un de ceux qu'on a entendu lors de l'affaire du pont de Ligonnès, c'est le principe des 12 points, des 12 minuties, des 12 accidents qui sont sur les empreintes digitales votre marque de fabrique. Et lorsqu'il y a eu l'affaire du pont de Ligonnès, on a vu cet épisode en Écosse où on a vu ce suspect qui n'avait que 5 minuties et donc qui n'avait pas au moins 12 minuties comme le voulait Locker. Autre principe qui est encore plus important aujourd'hui qu'il a laissé, c'est le principe d'échange. Le principe qui veut que lorsque vous avez une action criminelle violente dans une scène de crime, le malfaiteur laisse des traces et, souvent sans le savoir, en emporte avec lui. Et c'est encore aujourd'hui l'un des principes fondateurs de la police scientifique, avec un autre grand principe qui a été créé par l'américain Kirk dans les années 1960, qui est le principe dit d'unicité. C'est-à-dire que dans l'univers, toute chose est en quelque sorte unique.
Amos Frappa, il y a aussi une dimension qui constitue peut-être l'héritage principal d'Edmond Locard, c'est le fait qu'il ne faut surtout pas gâcher une scène de crime. Ça aussi, ça a été impulsé par Edmond Locard, le fait que quand on arrive sur une scène de crime, il faut toucher à rien, il faut autant que possible enquêter à pas de loup dans cet espace-là où chaque détail compte.
Alors oui, c'est ce que Locard avait coutume de formuler de la manière suivante. Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. C'est-à-dire que il faut que le laboratoire de police soit le premier à aller sur les lieux. C'est un peu l'ancêtre, vous avez raison, de la rue balise, de la protection des scènes de crime. Est-ce que c'est Locard qui l'a mis en place? Non, parce que Bertillon avait aussi ce souci, et tous les pionniers avaient ce souci. Mais disons que c'est l'un de ceux qui l'a le plus défendu dans ses écrits, dans ses conférences, dans ses interventions radio, et c'est pour ça que c'est souvent un principe qu'on lui associe encore aujourd'hui. Et oui, c'est peut-être même à l'époque, c'est-à-dire les années 1920, 1930, 40, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il martelait le plus dans ses discours, ce principe de protection des traces et justement de l'urgence qu'il y avait à intervenir sur les scènes de crime.
Mmh. Amos Frappa, on arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire de la police scientifique et du premier laboratoire de police scientifique créé par Edmond Locard. On n'a pas pu parler malheureusement du regain d'intérêt pour cette approche d'Edmond Locard à partir du moment où on a découvert l'ADN, où on a pu faire des analyses sanguines. On fera peut-être une autre émission sur la deuxième phase de la police scientifique à partir de ces découvertes et de ces innovations biologiques. Merci encore en tout cas à vous, Amos Frappa, et à très bientôt. Le laboratoire par Biche dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé de cette histoire de police scientifique, on va mener une autre forme d'enquête, sans doute un tantinet moins policière. On part sur la piste du dragon et on va chercher le berceau de cette chimère mythologique qui habite l'imaginaire humain depuis fort longtemps.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Les mythes, les contes, les légendes sont un peu comme le sol sous nos pieds. Ils sont composés de motifs imbriqués qui sont autant de strates qui s'assemblent ou se superposent pour former au fil des millénaires des récits servant de socle aux cultures humaines et dont on peut aujourd'hui retracer l'itinéraire dans l'espace et dans le temps. Parmi ces mythes, celui du dragon est omniprésent à la surface du globe, ce qui a donné à notre invité l'idée de mener une enquête colossale à la frontière entre phylogénie, statistique, anthropologie et archéologie pour en comprendre l'origine et la diffusion au fil des âges. D'où viennent les dragons qui peuplent encore notre imaginaire? Comment expliquer la diversité de leurs représentations? Quels outils scientifiques nous permettent aujourd'hui de nous rapprocher du berceau de cette chimère mythologique qui accompagne l'humanité depuis l'aube des temps? C'est l'enquête que nous allons mener avec vous aujourd'hui. Julien Duy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien rattaché au laboratoire d'anthropologie sociale, une unité mixte de recherche Collège de France, EHESS, CNRS et EPHE. Et vous êtes spécialiste de mythologie comparée. Vous publiez aux éditions Armand Collin une somme particulièrement érudite et complète intitulée « Dragon, généalogie mondiale d'un mythe ». Dans cette enquête, vous partez sur les chemins suivis par le mythe du dragon, ou plutôt les mythes du dragon, car vous avez croisé plusieurs milliers de récits de dragons pour ce travail de synthèse colossal, je le disais. Et vous cherchez le mythe originel du dragon qui a engendré tous ceux qui continuent de peupler notre imaginaire d'humain aux quatre coins de la planète. Alors Julien Duy, avant que vous nous présentiez la méthode particulièrement intéressante qui vous permet de partir à la recherche de ce mythe fondateur du dragon, j'aimerais vous poser une question toute simple. Pourquoi avoir fait le choix de ce motif-là en particulier, du dragon? Pourquoi ce mythe-là en particulier?
Alors, à une question simple, il y a rarement une réponse simple et j'en suis sincèrement désolé. Comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'enfants, grand enfant, j'ai le dragon chevillé au corps. Il y a quelque chose dans le dragon qui nous rattache au premier temps de notre vie. Que ce soit dans les films qu'on a pu regarder, dans les romans qu'on a pu lire. Par exemple, j'ai un souvenir particulièrement ému d'un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque parentale, blanc avec des petits traits jaunes dorés dessus, et où j'avais découvert la légende de Saint-Georges combattant le dragon, c'était la légende dorée, et cette image m'a poursuivi, puis avec le temps j'ai croisé, forcément, la curiosité aidant, n'étant pas encore ouvert à toute la mythologie mondiale, mais m'intéressant déjà aux récits, aux croyances, aux façons de voir des autres peuples, je me suis rendu compte que cette histoire de Saint-Georges, on en retrouvait d'autres versions à travers le monde.
Alors, je vais vous poser une autre colle, Julien Duy, une autre question a priori simple, mais qui n'a pas de réponse simple. Quelle définition on peut donner du dragon? Je sais que c'est quasiment mission impossible, mais quels pourraient être les traits communs, caractéristiques à tous les dragons, si tant est qu'il y en existe?
Alors, le dragon, effectivement, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, c'est une créature qui est massive, avec des ailes, des pattes absolument colossales, une queue qui crache du feu. Ce dragon est associé à une mythologie où il défend souvent un point d'eau, où il faut lui faire des sacrifices et où il doit être combattu. Sauf que si on élargit notre point de vue, c'est-à-dire si on quitte notre point de vue occidentalo-centré, on se retrouve que ces récits vont se retrouver ailleurs, avec des créatures semblables. Alors, ça ne ressemble pas exactement à notre dragon, mais c'est toujours une chimère, c'est-à-dire un assemblage de plusieurs animaux, et puis il y a une part ophidienne dedans. Et
ophidienne, donc il y a un donc, trait de serpent.
Qui relève du serpent. Et progressivement, on voit des chimères un peu partout, toujours accompagnées des mêmes récits et toujours cette part de serpent. Donc le dragon, que dans le livre j'appelle Dracon, c'est l'étymologie grecque qui envoie à la fois au serpent et au dragon, c'est cette chimère accompagnée toujours de récits très similaires où il y a une part de serpent. Et c'est cette chimère dont finalement on peut suivre le chemin à travers le temps et l'espace.
Alors votre livre parle dans son titre d'une généalogie mondiale du mythe du dragon. Pour établir cette généalogie, vous avez mobilisé plusieurs milliers de récits de dragons dans 23 aires géographiques à travers le monde. Alors c'est un vrai sac de nœuds qui a requis bien sûr une approche méthodologique bien particulière pour faire ce tri efficace et finalement donner du sens et agencer ces récits entre eux. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de cette méthode, Julien Duy, que vous avez développée, dont vous êtes un pionnier, qui fait recours à un outil de la biologie de l'évolution, la phylogénie?
Alors, on va partir du terme généalogie. C'est très simple. Que l'auditeur s'imagine et se compare, par exemple, avec son frère ou sa sœur, il y a un certain nombre de points communs entre les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que, cher auditeur, vous descendez d'un même parent. Et vous ressemblez à vos cousins plus qu'un quidam dans la rue, tout simplement parce que vous avez un ancêtre commun plus récent. Donc, pour les mythes, donc j'ai travaillé alors, non seulement sur cette base de données, sur de très très nombreuses bases de données confrontées, etc. Mais pour les mythes, la même chose peut se faire. On va prendre, par exemple, plusieurs versions d'un récit. Et alors, les versions, il y a plusieurs façons de raconter. Le combat contre le dragon, il y a plein de façons de raconter. Toujours avec un air de famille, hein, on va toujours retrouver le sacrifice humain, toujours le combat, etc. Et ça, c'est les versions d'un récit. Et il y en a plein, hein, des versions de combat contre le dragon. Et ces versions, eh ben, on va les découper en toutes petites unité qu'on appelle des mythèmes. Alors, dans un mythème, on met le moins d'informations possible. Ça correspond, en fait, aux gènes, aux protéines. Voilà, il nous faut quelque chose pour comparer les récits le plus objectif possible. Or, si quelqu'un n'est pas d'accord avec les mythèmes, très bien, c'est testable. Hein. Il refait l'expérience avec d'autres mythèmes. Et puis, ces petits mythèmes, ces petits éléments, il y a un héros, deux héros, il y a un dragon, deux dragons, le dragon a une tête, deux têtes, trois têtes, etc. Tous ces petits éléments, quand ils sont présents dans un récit, dans une version, on va mettre un. Quand ils sont absents, on met 0. Alors, pour chaque version, comme ça, on a des chaînes, hein, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, le compteur raconte une belle histoire et puis l'analyste voit des chaînes binaires. Mmh. Et on compare ces chaînes binaires. Et plus il y a de 1 en commun, plus l'ancêtre commun est récent. Et plus il y a de 0 en commun, et plus l'ancêtre commun est lointain. Et une fois qu'on a ces chaînes, hein, on utilise des outils, hein, parce qu'en fait, avec 5 versions d'un récit, on peut faire 105 arbres différents, avec les corpus les plus importants, hein, sur lesquels j'ai pu travailler, et plus d'arbres possibles qu'il y a de particules dans l'univers observable. Donc même si, une fois encore, j'ai le dragon chevillé au corps...
C'est pas la vie devant vous.
C'est ça, ça me ferait quand même pas mal de travail, donc sauf à croire en la réincarnation, y consacrer plusieurs vies, ça deviendrait assez compliqué.
Vous êtes peut-être un dragon vous-même, alors ça, on le saura plus tard.
Qui sait. Mais je n'ai pas de fumée qui sort des narines pour le moment. Donc, quoi qu'il en soit, on utilise ces algorithmes, et alors chacun ses forces, ses faiblesses, etc. Et on va recréer des arbres généalogiques. Donc, où plus de versions sont proches, plus elles sont proches au niveau des branches, plus elles sont lointaines, plus elles sont éloignées. Après, on a cet arbre, et puis il faut l'enraciner. Là, il y a des méthodes, hein, automatiques pour l'enraciner, parce que le but, c'est quand même de minimiser le biais de l'observateur. Et comme ça, on obtient un arbre d'évolution des récits de dragons. Mais avec ça, on peut aussi obtenir un arbre d'évolution des traditions, hein, par exemple des traditions linguistiques, associées aux dragons. C'est-à-dire qu'on prend une tradition, en simplifiant une tradition, c'est une unité linguistique, on va prendre la tradition française, hein. Je dis ça à tout hasard, géographico-linguistique, puis on va dire, tiens, dans cette tradition, il y a telle chose, tel épisode, tel autre épisode, mais on ne trouve pas tel autre qu'on trouve chez les voisins. Et pareil, on peut construire des arbres de tradition liée aux dragons, des arbres d'ère culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est pas s'arrêter à un corpus, parce que finalement on a un corpus, on obtient un arbre même s'il est solide. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses, hein. Il peut y avoir des biais statistiques. C'est de confronter tous ces niveaux d'analyse et de voir comment ils se répondent les uns les autres et comment ensemble, un peu à la manière, vous savez, des cordes formées de plusieurs taurons, comment ils s'entremêlent entre eux et seul serait quelque chose d'assez fragile, puisque naturellement il y a des biais. Naturellement, je prends moult précautions, hein, pour histoire de les circonvenir, mais on peut pas tout, hein, par principe, les biais ne se voient pas toujours. Mais en travaillant comme ça, avec une multitude de corpus, en construisant une multitude d'arbres, et si tous les arbres se rejoignent, alors, comme la corde est plus solide parce que c'est une union de taurons, et ben les conclusions qu'on peut en tirer sont plus solides parce que c'est une union de très nombreux résultats différents.
Et ce qui est très intéressant, Julien Duy, c'est qu'à partir de la constitution de ces arbres philomythologiques, comme on peut le dire, vous parvenez à proposer de retracer une histoire non seulement dans le temps, mais dans l'espace et de la diffusion de ces mythes. Alors, on va tout de suite sauter à l'origine du mythe du dragon à partir de ce travail statistique colossal que vous réalisez. Quelle ère géographique, culturelle, temporelle, dans laquelle de ces aires finalement vous situez le berceau du mythe originel du dragon?
Alors, ce n'est pas moi qui le situe, hein, donc une fois encore, c'est le produit d'estimation statistique et d'enracinement statistique et le produit de plusieurs corpus. Donc, quand on regarde les résultats, bien sûr réfutables, c'est-à-dire qu'on peut toujours tenter de prouver qu'ils sont faux, hein, le but, on est dans la science, on se rend compte que l'arbre qu'on obtient, qui est la synthèse de plusieurs autres arbres, trouve ses racines en Afrique. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'étonnant, hein, l'humanité partant d'Afrique, pourquoi pas? Sauf que lorsqu'on fait l'analyse, on ne met aucune indication géographique associée aux traditions ou aux versions d'un mythe. C'est-à-dire que l'arbre aurait pu automatiquement s'enraciner en Australie, en Asie du Sud, en Amérique du Sud. Non, l'arbre, les arbres, s'enracinent en Afrique. Et à partir de là, on peut suivre, hein, on voit l'arbre qui se déploie, et ça suit, sachant qu'une fois encore, il n'y a aucune indication géographique donnée a priori, l'arbre qu'on obtient va suivre les premières diffusions de l'humanité, avec une branche qui va longer l'océan Pacifique, qui va passer par le Sahul, hein, ces îles qui étaient, donc, on passe par la Nouvelle-Guinée, on arrive en Australie, parce que le premier peuplement par l'humanité, par Homo sapiens de la planète, s'est fait par le sud, il faisait un peu froid dans le nord, on était en pleine période glaciaire, avec une remontée via le détroit de Bering, on arrive en Amérique du Sud, et puis il y a une deuxième branche, hein, qui suit là encore ce qu'on sait, des premières migrations de l'humanité, et qui part d'Asie, du Sud-Ouest, et qui va remonter cette fois-ci en Eurasie du Nord, jusqu'à s'achever en Amérique du Nord, toujours en passant par le détroit de Bering. Et c'est déjà un premier résultat qui, en soi, aurait suffi. Mmh. Parce qu'en partant de données qui n'ont rien à voir avec les migrations humaines, on se retrouve avec une structure très similaire à ce qu'on sait de ces premières migrations, sachant qu'une fois encore, aucune indication géographique, on ne force pas les données, il y a quand même un certain nombre de règles de sagesse scientifique à obtenir.
Alors là, on a fait un grand écart spatio-temporel, puisqu'on parle de avant la sortie d'Homo sapiens d'Afrique, donc vers 250 000, 200 000 ans avant notre ère. Là, les premiers humains en Amérique, on estime ça autour de moins 15 000. Ce mythe du dragon, sur cette période de temps qui est quand même très vaste, on imagine qu'il a évolué. Alors, qu'est-ce qu'on garde de ce mythe originel durant cette diffusion en Asie? Ça, est-ce que vous avez des éléments qui nous permettent de décrire ce tout premier dragon déjà? Et puis comment il évolue, comment il mute?
Alors déjà, oui, le mythe du dragon évolue. Il évolue lentement, on peut le montrer par d'autres moyens, par des moyens empiriques aussi observables, hein, comme l'épopée, enfin on en reparlera peut-être après, l'épopée de Gilgamesh qui va traverser les siècles, on va le retrouver chez les Grecs sans qu'il y ait vraiment de transmission directe par l'écrit, et ainsi de suite. Et les variations, hein, qui sont liées sont nécessaires pour l'analyse, parce que finalement, toute analyse ne se construit pas sur l'unité du dragon, mais sur le fait que la figure du dragon diverge, se modifie, se transforme. L'esprit humain ne pense pas en mode monolithe, hein, il évolue lentement, certes, mais il évolue. Donc si on remonte à la racine, parce que quand on a une structure d'arbre, on peut imaginer, hein, vous voyez, il y a deux branches, et si les deux branches partagent un trait, eh bien, on peut imaginer que le nœud commun à ces deux branches partageait, hein, ce trait, l'ancêtre commun partageait ce trait. Et comme ça, nœud par nœud, progressivement, on peut remonter dans le temps jusqu'au premier nœud, ou les premiers nœuds, qui, hein, rappelez-vous, l'arbre sans racine en Afrique, qui nous ramène en Afrique. Et là, on va se retrouver avec plusieurs récits. On va avoir d'abord le serpent arc-en-ciel. Le serpent arc-en-ciel, hein, ça raconte comment, vous savez, le photométéore que l'on voit dans le ciel quand la pluie et le soleil s'interpénètrent est interprété comme un serpent. Alors ça a l'air, peut-être que l'auditeur un peu sceptique que lèvera l'oreille en disant « oui, mais c'est à peu près, ça, c'est évident, ça, c'est facile, tout le monde peut avoir l'idée ». Charge à lui de se rappeler que chez nous, on appelle l'arc-en-ciel arc, puisqu'il est interprété comme un arc et pas comme un serpent. Par ailleurs, il y a une série de traits, hein, qu'on peut suivre sur le parcours, qu'on peut reconstruire, on peut reconstruire l'évolution, qui indique que ce serpent arc-en-ciel, dans l'hémisphère sud, est cru sortir d'une termitière, par exemple. Hein, pourquoi pas d'autre part, ou d'une fourmilière. Pourquoi pas d'autre part, il s'agit d'un mythe vraiment qui s'est diffusé. Il ne faut pas le montrer du doigt non plus. Parmi les autres récits qu'on peut reconstruire, il y a l'idée que le serpent supporte ou entoure le monde. Cette idée que la Terre autrefois était instable et repose aujourd'hui sur un immense serpent qui est lové sur lui-même. Ou
serpent
qui entoure.
Se mord la queue, c'est ça.
Alors ça peut être un serpent qui se mord la queue, mais pas toujours, parce que justement, cette figure se mord la queue. Parfois, le serpent, un peu comme un jeune chiot, court après sa propre queue, et forcément, à chaque fois, il y a un énorme tremblement de terre. Voir un chiot s'amuser avec sa queue a quand même un peu moins de conséquences. Et ce récit, on va le retrouver, par exemple, chez les Dogons ou chez les Fon en Afrique. On va le retrouver en Indonésie, hein, avec le Naga Padoa, etc. Donc, il y a quelque chose de très cohérent dans l'hémisphère sud. Il y a d'autres récits, hein, le lien entre le serpent dragon et la mort, l'arrivée de la mort, qui raconte. Il y a plusieurs récits qui peuvent être reconstruits, mais généralement, le serpent arrive là où l'humain répond à une question où il n'aurait pas dû répondre, ou alors ne répond pas à une question à laquelle il aurait dû répondre, le serpent, lui, il a la bonne attitude et garde l'immortalité, c'est pourquoi il mue, c'est pourquoi il change de peau. Parmi quelques autres récits encore qu'on peut reconstruire, il y a cette histoire, cette idée d'une créature très petite qu'on va adopter et sous la forme d'un ver dans l'hémisphère nord, d'un serpent dans l'hémisphère sud. Et on va avoir grand soin. Par exemple, il y a un récit de Tlingit qui raconte comment John Tlingit adopte ce petit ver et va s'en occuper, va le nourrir, etc. Sauf que le ver grandit. Il devient tellement grand, le serpent ou le ver grandit, donc du coup, ça dépend dans quel endroit on se situe. Et il devient tellement grand qu'il devient une menace pour la communauté. Chez les Amérindiens de Colombie-Britannique, comme les Tlingit, par exemple, le ver rentre sous le sol et va vider les réserves de tous les habitants, la famine guette. Et il va falloir combattre ce ver. Alors, chez les Tlingit, le ver se rend un petit peu sans combattre. Dans d'autres récits, le serpent vert se combat, menace parfois l'humanité entière. Et ça explique pourquoi les dragons, finalement, on les observe pas si souvent, parce qu'à l'origine, c'est un petit serpent qui va grandir de plus en plus.
Voilà. Julien Duhy, il y a une autre question que je me posais en vous lisant, et vous la posez aussi, c'est cette question de la persistance d'une représentation alors que l'environnement change. On parle d'un serpent, on parle d'un être vivant qui, quand on va passer le détroit de Bering, n'est plus trop présent, et on va s'installer en Amérique, et là, pareil, il n'y aura pas forcément un climat favorable à ça, et vous demandez, le peuplement du Nouveau Monde s'étant réalisé par le détroit de Bering, comment expliquer que les premiers habitants des Amériques aient pu conserver dans leur mémoire l'objet de leur croyance, alors même que cet objet ne faisait plus partie de leur environnement? Ça, c'est une question qui me fascine, de me dire comment un motif, alors qu'il ne fait plus partie de notre environnement, reste dans la parole, reste dans le récit, reste dans ces échanges-là.
Alors, il faut savoir que l'être humain transporte ses mythes, mais les adapte au lieu où il se trouve. S'il n'y a pas de serpent, il y a un substitut très simple au serpent, c'est le ver. Mmh. Et on peut suivre comme ça on peut suivre comme ça certains mythes qui vont évoluer. Puis quand ils montent dans les hautes latitudes, là où le serpent ne peut plus subsister, il est remplacé par le ver. C'est-à-dire qu'on a la même histoire. Mais on est là, on a l'histoire d'un ver qui grandit. Ou alors, parfois, il peut s'agir aussi d'un poisson mythologique à deux têtes qui renvoie au serpent, parce que dans l'environnement, on trouve ça. Donc l'histoire reste. Mmh. Et lorsqu'on a franchi l'endroit où le serpent n'apparaît plus, et on redescend dans des latitudes où le serpent réapparaît, le serpent reprend sa place. C'est ainsi que certains récits ont pu se diffuser bien au-delà des zones où il y avait des serpents. L'imaginaire humain est extrêmement résistant.
Mmh. On a parlé donc de cette première diffusion, Julien Duhy, vers l'Asie du Sud-Est, le monde austral, le Sahul, les Amériques. Vous identifiez en fait dans ce travail-là, grâce à ce travail de philomythologie, un deuxième mouvement de diffusion, plus tardif, plus dans l'espace eurasiatique. Décrivez-nous cette diffusion et à nouveau la mutation de ce mythe du dragon à partir de cette deuxième diffusion.
Bien sûr. Alors, on a ce premier peuplement qui est dans l'hémisphère sud. Donc ça, qui va longer. La mer est beaucoup plus basse à l'époque. C'est le seul endroit où on est à peu près bien et où l'humanité peut s'installer. Puis, progressivement, la planète va se réchauffer. La calotte glaciaire va fondre et les humains vont pouvoir remonter vers le nord. Alors, ils ne sont pas remontés dans tous les sens, parce que il y a quand même des endroits plus ou moins faciles pour remonter. Ils sont remontés par l'Asie et l'Asie du Sud-Ouest. Donc, les humains ont commencé à repeupler cet espace désormais libéré. Donc, il y a comme une différence entre le peuplement d'hémisphère sud et le peuplement d'hémisphère nord qui se compte en plusieurs milliers d'années. Et il va y avoir une sorte de blocage entre les deux mouvements de population. C'est-à-dire que entre les populations qui sont au sud et les populations qui sont au nord, il y a des chaînes montagneuses, il y a des zones désertiques qui font que les points de contact ne sont pas si nombreux. Donc les humains montent et devant ces nouveaux milieux, devant ces nouveaux décors, ils vont inventer de nouveaux récits. Et ces récits, on va les retrouver partout dans le nord de l'Eurasie, mais aussi dans le nord des Amériques, où le même principe a eu lieu, donc la fonte des glaces, Rome et des espaces laissés libres pour les populations, donc une partie des populations du sud qui sont remontées, mais aussi des nouveaux arrivants. Parmi ces récits, il y en a certains qui nous sont étrangement familiers. Par exemple, le serpent a plusieurs têtes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout, qu'on ne retrouve pas de manière universelle, mais qu'on va retrouver en Amérique du Nord, qu'on va retrouver en Eurasie. Il y a d'autres récits, par exemple, l'idée que le serpent garde un point d'eau et qu'il faut lui sacrifier quelque chose pour pouvoir accéder à ce point d'eau. Là encore, il ne s'agit pas d'un mythe qui est universel. De toute façon, de ce qui est universel, on ne peut pas dire grand-chose, sinon des banalités. Non, en fait, c'est un récit qu'on va retrouver dans le nord de l'Eurasie, qu'on va retrouver en Amérique du Nord. Il y a l'idée, enfin, du combat, du combat contre le serpent. Et là, ça va nous rappeler étrangement des récits connus, parce que dans cette nappe, alors, si on parle des Indo-Européens, c'est-à-dire de notre culture, les chercheurs se sont rendus compte qu'à travers les récits Indo-Européens, donc que du nord de l'Europe jusqu'à l'Inde, comme le nom l'indique, on retrouvait l'idée d'un dieu de l'orage, un dieu de l'orage qui va combattre un serpent et qui, généralement, le serpent retient l'eau. Lorsqu'on va plus à l'est, on retrouve cette idée. Sauf que c'est plus un dieu de l'orage qui va combattre un serpent, ça va être un oiseau de tonnerre qui va combattre un serpent qui, par ailleurs, soit s'attaque à sa nichée, soit retient l'eau. Et cette idée de l'oiseau tonnerre et du serpent, de ce combat qu'on retrouve représenté un nombre incalculable de fois en Eurasie, eh bien, on va le retrouver en Amérique du Nord, où, parfois, sous des formes de particularisation, on va retrouver ce combat entre l'orage et le serpent qui représente la rétention.
Donc là, on comprend bien que cette deuxième diffusion va ancrer certains motifs qu'on utilise encore, qui ont été utilisés notamment dans la Bible, dans la religion chrétienne, en faisant de ces saints sauroctones comme Saint-Michel, Saint-Georges, qui terrassent des dragons, voilà, des hommes qui vont combattre ce dragon. On est très loin là de ce motif, d'un autre type de motif du serpent amant qu'on peut retrouver voilà dans le cadre de cette première ère, en tout cas de diffusion. Julien Duy, on s'appelle l'entretien archéologique aujourd'hui. Alors, et toujours, et on s'appellera toujours l'entretien archéologique, mais du coup, j'aimerais comprendre la place de l'archéologie dans tout ça. Comment vous allez chercher dans des fossiles, dans des représentations picturales, pariétales, à des moments où on n'a pas de preuves écrites de l'existence d'un mythe, la trace du dragon? Est-ce qu'il existe des fossiles de dragons? Est-ce qu'il existe des peintures de dragons à la préhistoire?
Alors, les fossiles de dragons, ce serait quand même une sacrée révolution en archéologie, pourquoi pas, mais charge à celui qui avance l'idée.
Ce serait de la paléontologie, mais oui.
C'est ça, de le démontrer. C'est vrai qu'il y a, mais c'est vrai que ça fait le lien, parce que souvent on imagine que les dragons, ce sont des créatures. On a retrouvé les humains ont découvert des squelettes de dinosaures et que automatiquement ils ont imaginé les dragons. Il y a des exemples qui sont célèbres, l'Invurn de Klagenfurt, que je dis pas de bêtises, Klagenfurt, en Autriche par exemple, s'inspirait d'un crâne qui avait été découvert. Bon, on s'est rendu compte après que c'était pas un crâne de dragon, mais de rhinocéros laineux. Pourquoi pas, sauf que ça pose une série de problèmes, et après je réponds à votre question, c'est simplement que déjà ça implique que les humains ayant découvert ces squelettes du dinosaure savaient comment les imbriquer les uns avec les autres, parce que c'est un peu comme une caisse de Lego sur notice. Ce qui impliquerait qu'ils seraient peut-être plus forts que nous, puisque la forme du... telle la manière dont on a reconstruit les dinosaures n'a cessé d'évoluer, continue à évoluer aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'à partir de quelques ossements, ces premiers hommes ou ces humains auraient pu reconstruire un dragon, ce qui est assez étonnant. Donc ça, c'est pour le premier point, le lien avec les squelettes de dragons. Le deuxième point, oui, c'est une très bonne question, parce que la forme, finalement, on peut reconstruire les mythes, on peut montrer la solidité, il y a plein de façons différentes de montrer que les résultats sont corrects, parce qu'il ne faut jamais se contenter d'une façon. Mais il faut la réalité, il faut pouvoir toucher directement aux choses. Alors, au niveau des éléments, le premier élément possible, c'est comparer, par exemple, les représentations pariétales. Donc, il y a des représentations pariétales qui sont précolombiennes, y compris en Amérique, par exemple, en Australie. Et il s'avère que ces représentations pariétales, qui représentent une chimère avec un serpent, généralement cornu, correspondent à ce qu'on peut, et les mythologies qui sont associées correspondent à ce qu'on peut reconstruire. Ce serait quand même une sacrée coïncidence, et toutes ces représentations pariétales, pile au bon endroit avec des bons mythes, serait apparu par hasard. Mais on peut dire que c'est une coïncidence. Alors, si on s'appuie sur l'archéologie, bon, bien sûr, il y a la Mésopotamie, on retrouve des récits dans le Sahara, on a pu montrer qu'il y avait un combat contre un serpent gigantesque à deux têtes. Et on peut montrer qu'il est fléché. Donc là, on est sur du néolithique. On va me dire, oui, bon, les néolithiques, là, on parle quand même des premières sorties d'Homo sapiens d'Afrique. Donc, faut pouvoir remonter plus loin. Oui. OK, pas de problème. Donc, paléolithique européen. Par exemple, à Lortay, on parlait tout à l'heure du combat entre le serpent et l'oiseau tonnerre. À Lortay, on a trouvé une image qui représente apparemment un serpent. Ça a été interprété comme un serpent, une vipère. Et autour de cette vipère, il y a des têtes d'oiseaux. C'est l'abbé Breuil de mémoire qui les avait interprétées comme ça. Et on a donc ce serpent qui est au milieu, puis des têtes d'oiseaux autour, et puis des chevrons, c'est-à-dire des signes en zigzag qui rappellent l'orage. Bon, alors bien sûr, ça peut être tout autre chose, mais ça répond quand même étrangement aux reconstructions qu'on peut réaliser. Dans la Brimège, on est dans du Magdalénien, en Dordogne, on a retrouvé, alors bien sûr que ça peut être des anguilles, c'est pas forcément des serpents, mais c'est quand même étonnant parce qu'on a trouvé une sorte de créature qui représenterait sorte, trois serpents, mais dont seules les têtes sont distinctes, c'est-à-dire l'animal a un corps en commun. Ou encore au Tuc de Toubert, par exemple, ou à Montespan. C'est des grottes, des grottes paléolithiques. Et ces grottes sont toutes deux traversées par une rivière. Et là, on a retrouvé, c'est quand même coïncidence. Donc, il y a les deux grottes, il y a des images qui sont façonnées, modelées, il y a des gravures. Et là, on a retrouvé des serpents. Mais ces serpents, des squelettes de serpents déposés dans des gourds, vous savez, laissés par les ours des cavernes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces serpents, tous deux, avaient la tête coupée.
Mais c'était une décapitation intentionnelle.
C'est une décapitation qui est intentionnelle. C'est-à-dire, on a retrouvé tout le squelette, sauf la tête. Donc, il y a probablement un acte rituel derrière. Or, quand on s'intéresse, donc on peut reconstruire la proto-mythologie qui est liée au paléolithique supérieur de l'Eurasie, eh ben, on a déjà ce combat contre le serpent qu'il faut vaincre pour obtenir l'eau. On est dans des grottes traversées par des rivières. Voilà, donc on peut multiplier, parce qu'il y a forcément les images qui sont connues. Par exemple, à Puyang, il y a une sorte de mosaïque en Chine qui représente un dragon. Mais le dragon n'est pas forcément toujours reconnaissable non plus. Parce que quand on s'intéresse au dragon, on se rend compte que les humains qui ne sont pas stupides, qui voient bien, qui n'ont jamais rencontré de serpent dracon à travers le monde, tendent à dire que c'est juste parce que l'animal est doué en métamorphose. Par exemple, les Khoisan, en Afrique australe, pensent qu'il existe un serpent arc-en-ciel, mais ils ne l'ont jamais vu. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Que dans la vie de tous les jours, ce serpent, quand il sort de l'eau, il prend la forme d'un taureau. Les taureaux, ils en ont vu.
Ça simplifie notre histoire. Voilà, je crois qu'il y a une histoire de sanglier aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. En Eurasie, il y a des passages réguliers entre le sanglier et le serpent, ou le cochon et le dragon, le dragon-serpent. Par exemple, dans la culture Hongshan, donc on est sur du moins 4000, moins 2000 avant notre ère, on a retrouvé des images hybrides qui sont à la fois dragon et sanglier. Si jamais on s'intéresse à la culture celte, on retrouve ce mélange où des dragons peuvent se transformer en cochons, par exemple, etc. Sauf que ça rend les choses plus compliquées. Parce que quand on voit la représentation d'un suidé, donc la famille du cochon, du phacochère, etc., du sanglier, comment l'interpréter? Est-ce qu'il s'agit réellement d'un suidé? Mais dans ce cas, pourquoi l'avoir représenté? Enfin, on peut imaginer à quoi on représente, ça peut avoir tout autre symbolique. Ou est-ce que ça signifiait quelque chose d'autre? Donc là encore, la philomythologie permet d'aller au-delà des représentations, parce que finalement, la représentation, il n'y a pas de texte avec, et ce que propose la philomythologie, en termes statistiques prudents, il s'agit de probabilités, c'était stable, c'est d'essayer de reconstruire le récit qui potentiellement pouvait accompagner ces textes.
Et vous le reconstruisez à merveille, Julien Duhy, et vous nous permettez de comprendre finalement que les mythes sont aussi, à leur façon, des vecteurs de la mémoire humaine. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre enquête folle sur la piste du dragon. Je rappelle le titre de votre livre, Dragon, généalogie mondiale d'un mythe. C'est paru aux éditions Armand Collin. On peut aussi signaler la réédition en poche aux éditions de La Découverte de votre précédent ouvrage, L'Aube des mythes. Merci encore.
Merci.
Notre émission touche à sa fin. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à Félix Delacour aujourd'hui à la technique. Merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.